RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement au travail, est un fléau de plus en plus répandu en France. Les conséquences peuvent être graves, souffrance au travail, longue maladie, incapacité à continuer son activité et parfois même le suicide. Selon l'Institut National de Veille Sanitaire, près de 500 000 personnes en France sont concernées par la souffrance psychique au travail. Parmi elles, 30 000 sont reconnues comme relevant du burn-out, un nombre qui augmente d'année en année. Et c'est sans compter les cas non diagnostiqués. Tous les secteurs professionnels sont concernés et tout particulièrement les soignants. Burnout, quand soigné épuise. Grand reportage signé Ariane Gaffury.
Le burnout, c'est qu'on vit à 100 à l'heure et on ne sait pas s'arrêter. Et donc on se dit pas, j'en ai ras-le-bol, je vais arrêter, parce que si c'est ça, bah on a plus de burn-out et tout va bien et on prend des jours off et ça va mieux. On dit il faut continuer, on se rend plus compte qu'on tient sur les nerfs, qu'on fait une quantité de travail qui est déraisonnable sur le long terme, et on se dit, je me suis dit, je vais mourir si ça continue, je vais mourir au travail. Et tout le monde s'en fiche, voilà.
Ce médecin qui souhaite garder l'anonymat travaille dans un hôpital de la banlieue parisienne. Des heures à n'en plus finir avec une famille à gérer sans le soutien de ses pairs.
J'aurais bien aimé que localement on me tende la main, oui, ça c'est sûr. Mais ça n'est pas venu. Hein. Pourtant, il y avait des signes avant-coureurs qui auraient pu être aisément saisis. Je sais qu'à ma hiérarchie, je me suis alors pleuré dans un bureau en disant que je n'en pouvais plus, que j'allais très très mal. Ça n'a rien déclenché. Trouver ça... pas justifié, disait que je m'organisais mal, que c'était ma faute. Là, c'est des collègues d'autres hôpitaux qui m'ont vu très très mal. Ils m'ont dit, tu vas pas bien, il faut que tu consultes quelqu'un. Bah, sur le coup, je pensais que c'était que non. Enfin, je veux dire, j'allais pas aller voir un psychologue, un psychiatre. Enfin, ça se fait pas dans notre milieu. Le médecin, on va toujours bien. Enfin, je veux dire. Et puis, il y a eu des déclencheurs qui ont fait qu'en plus, l'ambiance au travail était extrêmement délétère, extrêmement néfaste. Il y a eu une petite goutte d'eau, un petit incident qui a fait que j'ai vraiment craqué et j'ai demandé à mon collègue les coordonnées d'un spécialiste de la souffrance au travail, qui était un psychiatre, que j'ai vu, qui m'a dit que dans mon état, il fallait que je m'arrête. Et je sentais bien au fond de moi que si j'étais allée le voir, c'est parce que je ne savais plus quoi faire et que j'étais au bord du gouffre. Enfin, et donc, ce psychiatre m'a arrêté, j'ai accepté parce que j'avais envie d'être sauvée, de vivre en fait.
Après un arrêt de 4 mois, ce médecin a pu reprendre son travail dans un autre service, plus bienveillant. À force de voir des salariés craquer dans son bureau de consultante en entreprise, Sylvie Brière s'est penchée sur la question du burn-out, brûlé de l'intérieur en anglais. Elle a fondé l'association France Prévention et publié un livre, Le syndrome d'épuisement, aux éditions Fortuna.
Le syndrome d'épuisement est un ensemble de situations qui convergent vers un épuisement, c'est le mot exact, et il y a encore des solutions. Alors que lorsqu'on est brûlé de l'intérieur, disloqué, en perte identitaire, eh bien on est quand même gravement malade, donc en grande difficulté vis-à-vis de soi-même. Quand on est au burn-out, on est à la fin du processus quelque part. D'une manière générale, déjà, il ne faut pas tout qualifier de syndrome d'épuisement ou de burn-out. Il faut être prudent. Il y a des paramètres médicaux très précis, donc il faut être sérieux et écouter les spécialistes. Donc les médecins sont les meilleurs détecteurs de syndrome d'épuisement, mais les gens qui font un épuisement sont souvent des gens assez difficiles à convaincre de se faire soigner.
Ça touche qui, ce burn-out, cet épuisement ?
Je crois qu'en fait, il n'y a pas de profil spécial, mais il y a des profils favorisants. C'est peut-être celui qui va vouloir aller remplir sa mission, avoir de l'authenticité face à son contrat, face à son salaire. Et celui-ci, on va pouvoir plus facilement le pousser à l'épuisement, oui, bien sûr. Il faut le protéger, et c'est une valeur sûre de l'entreprise en général. Une personne qui va se démissionner intérieurement de son travail, dire « bon, je vais au boulot, je gagne mon salaire et je fais ce que je peux », va pas forcément tomber dans l'épuisement. C'est une technique qui va le protéger.
Sylvie Brière a donné rendez-vous à Dominique, une femme qu'elle a aidée. C'est dans un bar d'un hôtel que nous nous retrouvons. Dominique, la cinquantaine, a été psychomotricienne pour enfants et adultes malvoyants et aveugles pendant 35 ans. Mal encadrée, surinvestie jusqu'à l'épuisement, elle est aujourd'hui incapable d'exercer son métier.
Il y a quelque chose qui s'est cassé net. Reprendre mon métier, je ne peux pas. Donc, pour que je ne sois plus sur le terrain, le directeur de l'établissement m'a dit je vais vous mettre chef de service pour que justement vous ayez des horaires un peu plus cadrés et que vous soyez moins fatigué. Bon, j'ai été propulsée chef de service sans aucun accompagnement. Ça a créé la jalousie d'une certaine collègue. Là, c'est devenu infernal parce que du coup, elle m'a amené quand même la vie assez dure. C'était une forme de harcèlement. Et un jour, je suis arrivée à mon bureau, il y avait un mail, c'était le mail de trop, je pense. Et je suis allée voir l'ARH en disant « Maintenant, j'en ai marre, ça fait plusieurs fois que je fais remonter que ça va pas, personne ne tient compte de mes remarques, donc je vais aller me suicider. » Donc là, l'ARH a fait son travail, hein, elle m'a dit, donc on a parlé longuement. Et puis après, elle me dit « On va aller voir le directeur, parce que c'est pas possible. » Donc on est allé voir le directeur et qui m'a dit « Rentrez chez vous, reposez-vous, ça ira mieux après les vacances. »
Mais pendant les vacances, Dominique a failli mettre fin à ses jours. C'est un appel inattendu de Sylvie Brière qui l'a arrêté.
Je voulais me défenestrer. J'étais au 14e, hein, donc j'avais aucune chance. Soit passer sous les rails du métro, soit sauter du pont. J'ai pas mis en place, grâce à l'entretien téléphonique de Mme Brière, comme quoi des fois le hasard, et elle a bien senti que j'allais pas du tout et que je pouvais passer à l'acte. Donc elle m'a fait promettre d'aller à l'hôpital. Donc je suis allée aux urgences. Donc j'étais hospitalisée 15 jours en psychiatrie, avec les médicaments bien sûr, et puis j'ai eu un suivi psychologique. J'ai eu forcément, après l'hôpital, le médecin traitant. C'est le médecin traitant qui a demandé l'ALD, l'arrêt longue durée. À la sécurité sociale, ça a été accepté sans problème. Donc là, je suis en arrêt longue durée. Après, je ne sais pas, je suis dans l'incertitude. En janvier 2018, j'arrive au bout des 3 ans d'arrêt. Donc là, c'est l'invalidité qui m'attend si je ne peux pas reprendre mon poste à temps plein.
Oui, bonjour. Vous pouvez parler. Je vous écoute. Hein.
Un soignant sur deux est confronté au burn-out et chaque année, une cinquantaine de médecins tentent de mettre fin à leur jour. C'est 2,5 fois plus que pour le reste de la population, selon l'Association de soins aux professionnels de santé. L'association a créé une cellule d'écoute gratuite pour leur venir en aide.
J'ai 30 ans, je suis médecin dans un hôpital. Je suis arrivée dans un service qui était déjà désorganisé par plusieurs burn-out qui m'ont précédé. Et manifestement, la mesure de la situation n'avait pas été prise par le chef de service. Donc je suis arrivée en même temps que 3 autres collègues qui ne connaissaient pas la structure. Et donc on s'est retrouvés dès le premier jour avec les lits d'hospitalisation à gérer, la consultation, toute l'activité d'un hôpital, sachant qu'il n'y avait aucun médecin qui était là pour nous aider à faire tourner la structure. Je me suis retrouvée avec une charge de travail que j'étais absolument pas capable d'assumer dès les tout premiers jours. Il y a un aspect technique également dans ma spécialité, avec des gestes invasifs que j'étais la seule des nouveaux médecins à maîtriser. Donc j'étais obligée de faire tous ces gestes-là, en plus de mon travail. Avec mes collègues qui partaient à 18h ou 18h30, j'avais probablement une part de responsabilité parce que je suis obsessionnelle et perfectionniste, mais que mis dans un environnement normal, j'aurais pu assumer les activités.
Ce ras-le-bol que vous avez ressenti, comment ça s'est manifesté pour vous ?
Je dormais de moins en moins bien, je me réveillais tôt le matin, j'arrivais de plus en plus tôt à l'hôpital, j'arrivais plus à m'endormir. Après, progressivement, j'arrêtais de manger le matin et le midi. Donc j'ai beaucoup maigri et je pleurais, dans ma famille, donc je pleurais toute la soirée, jusqu'au moment où j'étais plus capable d'aller voir un patient parce que je pleurais.
Est-ce que vous pensez qu'il y a, je ne sais pas, je vous pose la question, ne m'en voulez pas, hein, peut-être une fragilité, une sensibilité particulière qui fait que peut-être vous allez être plus touché que d'autres ?
Il y a des médecins, quand ils savent que leur patient, enfin, quand ils ont demandé un scanner en urgence, qu'ils savent que le radiologue l'a accepté, mais qu'il n'y a pas de brancardage, ils vont dire à l'équipe, eh ben, descendez-le, ils vont partir. L'équipe n'aura pas le temps de le descendre, le scanner ne sera pas fait. Je ne peux pas partir le soir en sachant qu'un patient a besoin d'un scanner et que le scanner n'a pas été fait. Je pense qu'on ne peut pas se désengager un petit peu. Les médecins qui arrivent à avoir des horaires normaux et qui sont finalement heureux de venir travailler le matin dans ces conditions, c'est ceux qui se sont détachés complètement de ce qui fait qu'on est médecin et qu'on soigne des gens. C'est peut-être une sensibilité particulière, mais c'est... Enfin, je me dis que les patients dans les lits, certes, c'est ma famille, certes, quand je rentre chez moi, j'y pense plus forcément, mais j'y pense plus parce que je sais que j'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire pour eux.
Oui, le SAMU 93.
Et vous avez mal au ventre ?
Bonjour, monsieur.
Et c'est ça qui vous... D'accord. Et c'est ce qui vous gêne pour respirer, c'est ça ?
D'accord. D'accord. Et ce mal de ventre, il est dans tout le ventre ou à un endroit particulier ?
Nous sommes en salle de régulation. C'est là qu'arrivent les appels du centre 15 pour les urgences médicales. Christophe Prudhomme est médecin urgentiste au SAMU de Seine-Saint-Denis et responsable de la CGT Santé. Il plaide pour que le burn-out soit reconnu maladie professionnelle par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
J'entendais la ministre sur le fait de savoir si le burn-out était une maladie professionnelle. Elle a dit non. Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? Quand effectivement il y a un management autoritaire délétère dans une ambiance de contrainte financière, quand les personnes dépriment, dans ce cas-là, ça doit être reconnu comme une maladie professionnelle. Il faut être clair. Et elle-même, la ministre, le disait. Elle constate que depuis 20 ans, les directeurs d'hôpitaux, qui sont des fonctionnaires, c'est le service public, se comportent comme des dirigeants d'entreprise et comme les pires. C'est-à-dire, ils expliquent que les soignants sont des producteurs de soins, qu'on doit gagner des parts de marché, et qu'on doit remplir les lits à 100%. Et la solution qu'on nous a proposée ces dernières années pour gérer ces problèmes de lits, c'est de mettre en place, on aime bien les termes anglais, on a mis en place des bed managers, des gestionnaires de lits. Quand on a expliqué aux gens qui nous dirigent que des gestionnaires de lits, des bed managers, c'était bien pour l'hôtellerie, là, l'hôpital, non, c'est l'objectif n'est pas de remplir à 100% parce qu'on a des données épidémiologiques qui montrent que quand un hôpital dépasse un taux d'occupation de ses lits de 80%, il dysfonctionne. Et quand il dysfonctionne, il y a une surmortalité. Dire, il faut encore faire des économies mis à l'hôpital, c'est pas acceptable aujourd'hui. Ça participe au burn-out. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà changer les méthodes de management. C'est-à-dire le management autoritaire, avec comme seul objectif l'équilibre budgétaire, c'est pas possible. La situation aujourd'hui à l'hôpital est pire que celle qu'a connue France Télécom à ses heures les plus sombres. On peut pas continuer comme ça.
Oui, de SAMU 93. Bonjour madame. Oui, qu'est-ce qui vous arrive ?
Les heures les plus sombres de France Télécom, c'était il y a presque 10 ans. 35 salariés se sont donné la mort en un an et plus d'un millier sont entrés en dépression. Les syndicats ont alors dénoncé un management par la terreur. L'opérateur historique a fait supprimer 20 000 emplois dans un contexte d'ouverture à la concurrence marqué par le virage du numérique. Après 7 ans d'enquête, le parquet de Paris a demandé le renvoi en procès pour harcèlement moral de France Télécom et de son ex-patron Didier Lombard. Au sein des établissements, le médecin du travail est le premier recours pour détecter l'épuisement professionnel. Mais ils sont peu nombreux et débordés. Autre sentinelle, les élus des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Alexis Bronès est infirmier et élu CHSCT à l'hôpital Kremlin-Bicêtre en Ile-de-France.
Moi, dans mes passages dans les services, voir des collègues pleurer en bossant, c'est quelque chose, malheureusement, assez fréquent. Pleurer parce qu'on n'y arrive plus. Là, on vient de voir passer une collègue dans le local de la CGT où elle me racontait qu'ils ont laissé, parce qu'ils étaient obligés d'accompagner un patient, une infirmière, une aide-soignante pour 27 patients dans un service de médecine lourde. La seule réponse que font direction et malheureusement l'encadrement supérieur, c'est il y a les effectifs requis dans ce service-là. Mais quand vous avez des patients très lourds ou en fin de vie pour lesquels il n'y a pas le personnel nécessaire pour accompagner la personne, oui, on est dans de la production de soins et on est dans le mal travaillé. Voilà. Et avec un sentiment d'écœurement de grand nombre de personnels. Parce que quand on choisit généralement les professions de soignants, on a envie de faire son métier correctement.
Sur le bureau d'Alexis Bronès, un dossier avec des dizaines de lettres de salariés au bout du rouleau.
On intervient déjà presque trop tard, puisque moi je suis dans la prévention. Et là où nous sommes présents, on évite effectivement nombre de burn-out, nombre de tentatives de suicide, voire de suicide. Et on s'aperçoit que partout où ça a lieu, c'est que nous ne sommes pas présents. Le gros problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous avons aujourd'hui des directions qui favorisent ces mauvais traitements. Autant nous avons une tâche, nous, qui est celle de rassembler, eux, ils ont pour tâche de diviser. Or, partout où il y a burn-out, il y a division des personnels, chacun essaye de tirer la couverture à lui pour essayer d'échapper finalement à ces situations dangereuses. Nos directions ont beaucoup misé sur la communication, sur ce que d'aucuns politiques appellent de la pédagogie. On en arrive à des situations désastreuses. Et donc, les psychologues du travail. Une fois qu'on a essayé tous les recours, la direction fait souvent appel aux psychologues du travail. Sauf que là, déjà le mal est fait, et puis ça permet de poursuivre finalement ces divisions. En essayant d'identifier un individu, bah oui, il n'est pas forcément dans l'équipe, lui il va pas bien, lui il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais dans les faits, là où on arrive à mettre en place un collectif qui demande à pouvoir bien travailler, à travailler en équipe, là ça devient plus compliqué pour eux.
La souffrance au travail a aussi des retombées économiques. Pour les salariés en premier lieu, dont les revenus diminuent. Pour les entreprises, ce sont aussi des savoir-faire qui disparaissent, des remplacements difficiles à organiser. Des pertes estimées entre 2 et 3 milliards d'euros par l'Institut national de recherche et de sécurité. L'année dernière, la Commission des affaires sociales et de la santé a décidé de s'attaquer à l'épuisement professionnel. Pendant 6 mois, elle a auditionné une centaine de spécialistes de tous bords, dont Sylvie Brière, fondatrice de l'association France Prévention.
Aujourd'hui, on a réussi, grâce à cette commission sur le syndrome d'épuisement, à valoriser la vigilance dans l'entreprise sur des conduites à risque des salariés. On a revalorisé, parce que ça existait déjà. On a donné des visibilités au harcèlement, aux pratiques discriminatoires dans l'entreprise, mais également au fait que l'employeur était celui qui organise la santé dans l'entreprise, et aussi que les employés ne doivent pas avoir des conduites à risque. On a développé le droit à la déconnexion. Il faut être raisonnable, on n'est pas du 7 jours sur 7 sur les ordinateurs, les portables, etc. Depuis le 1er janvier 2017, il est obligatoire de faire des formations en RPS quasiment dans toutes les entreprises, les risques psychosociaux. Eh bien, il faut les faire, mais des vrais. On a quand même une visibilité de managers qui sont désignés d'office alors qu'ils n'ont jamais eu un cours de management. C'est désolant, il faut des gens qualifiés. Les risques psychosociaux, c'est pas quelque chose qu'on invente pour se faire plaisir, c'est une réalité qui a des conséquences. Donc si on réinstalle des réflexes de travail courtois et attentifs, on réinstalle dans l'entreprise une économie qui donne de la productivité, mais une productivité qui est heureuse, pérenne, qui donne à l'humain sa place. C'est pas d'utopie, c'est une obligation presque.
Une obligation vis-à-vis de soi-même également. Marie-Quetta Donis en est convaincue. Elle était surveillante la nuit dans un centre pour personnes handicapées, tout en élevant 4 enfants. Elle a tenu 3 ans avant d'agir.
Je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir les solutions que je pouvais trouver. En gros, j'ai mis tout à plat et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Un petit peu comme on fait sur une feuille de papier, avantages, inconvénients, c'est pour caricaturer, mais c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et donc je me suis dit, si le problème c'est le travail, bah tu arrêtes ton travail. Ça a été clair et net pour moi. Donc ensuite, une fois que j'avais pris cette décision, moi personnellement, j'en ai parlé à mon mari, on a discuté. Donc j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire d'autre, quel métier que je pouvais occuper, est-ce que je pouvais utiliser mon diplôme. Voilà, j'avais quand même eu un BTS en économie sociale et familiale, donc peut-être trouver un emploi dans ce secteur. On a vu ça comme une occasion quelque part. Mon mari m'a dit, là tu vas pas bien, c'est peut-être le moment de faire quelque chose pour toi. Il m'a beaucoup soutenue. Heureusement que mon mari, effectivement, a compris. Et c'est là, en fait, j'ai commencé à penser à moi. Depuis que je m'octroie ce droit de penser à moi, ce droit de connaître mes limites, de connaître mes besoins et de les respecter, quand je suis présente avec mon conjoint, mes enfants, ou avec mon travail, ou avec des personnes voilà, comme vous que je rencontre aujourd'hui, ce sont des moments de qualité. Voilà, parce que je suis en phase avec moi-même et parce que je sais que mes besoins sont respectés.
Depuis, Marie-Quetta Donis a créé un site, accomplirsavie.com, un nom qui en dit long. Burnout, quand soigner épuise, un reportage d'Ariane Gaffuri, réalisation Eva Moschinski.